Au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré. Alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épargner, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous. Retrouvez 16 Gaou et ses invités dans le Club de la Presse tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend et à une période de l'année, ça rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épargner, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Il est 11h sur la nouvelle génération. Vous comprenez sans doute que vous avez rendez-vous avec l'émission Club de la Presse. Club de la Presse, alors, ce cinquième numéro, surtout à l'heure de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Club de la Presse, c'est avec Michel Vitogbe Tomega et Thomas Dativi à la mise en onde, Jérôme Dakucha à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Le Club de la Presse, c'est aussi avec nos confrères, enfin nos radios partenaires. D'abord, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous pouvez également nous suivre en direct alors sur nos différentes plateformes numériques et aussi sur Ibn Radio et aussi Radio Les Bénés. Ce sont des radios en ligne, bien évidemment. Club de la Presse, c'est avec des débats, des analyses, du commentaire et aussi des décryptages de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Et déjà ce vendredi, il est très habitué, même d'ailleurs au vendredi. Et je veux bien parler alors de Francisco Napokoura. Francisco, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour disons aux techniciens derrière la baie vitrée. Et bonjour spécial à nos amis de... Radio La Paix depuis Atakpamé et Annie principalement à sa directrice on est là.
On est là, c'est l'essentiel et je pense que nous aurons à mener le débat tout de suite l'autre journaliste qui est déjà là aussi c'est le confrère Godson Ketomanyan. Godson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour amis auditeurs et auditrices, à tous les lecteurs du journal Liberté,
tout à fait.
Et à tous les citoyens qui sont branchés pour cette émission. Je vous dis bonjour.
Bonjour et je rappelle que vous êtes alors du journal Liberté, du quotidien Liberté, bien évidemment. Et là, je ne le laisse même pas s'installer d'abord avant de le souhaiter. Alors, bienvenue. Alors, Firmin Teko Agbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité. On voit comment je suis soufflé.
Et voilà,
c'est un peu couru dans le couloir.
D'accord, c'est important. Et Alors, c'est vrai, cette émission, c'est toujours alors pour le décryptage de l'actualité. Et je pense quand même que nous nous apprêtons surtout alors pour cela quand il s'agit alors de l'émission Club de la Presse.
Exactement.
Alors, voilà, notre premier sujet dont nous allons débattre aujourd'hui, ça concerne surtout le recensement électoral. Nous savons que, afin de débuter le 29 avril dans la zone 1, le recensement électoral en vue alors de l'organisation des prochaines élections législatives et régionales a pris fin le 14 juin 2023 dans la zone 3. Et dans un communiqué en date du 22 juin, c'est-à-dire hier, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Sonny Dago Yabré, a confirmé le démarrage effectif des opérations d'appurement du fichier électoral. Alors, Fisco, c'est vrai que déjà, il y a le recensement électoral, le travail du terrain a été fait. Maintenant, le président de la Sonny annonce plutôt l'opération alors d'appurement. Ça veut dire tout simplement que pas à pas, nous allons vers les échéances électorales.
Oui, on dit les chiens à bois, la caravane passe. Nous avons décrié ici l'opération dans la première zone et qui n'a pas été totalement effective puisque sur le nombre de personnes à recenser, les gens estimaient déjà à près de 2 millions. Mmh. Or, on n'était qu'à 900 000. Et à Lomé, le fief même sinon la base de la CENI, on a eu à constater beaucoup d'irrégularités, manque de matériel et disons flânerie autour de des travaux, et la lenteur et autres qui ont fait que malgré les jours, les deux ou trois jours de surplus, les gens n'ont pas pu s'enrôler. Et tout le monde souhaitait que à la fin de la troisième zone, que la CENI devait revenir dans la zone 1, ouvrir encore un certain nombre de jours pour pouvoir enrôler ceux qui sont sur le carreau. Donc, on constate malheureusement que la CENI a décidé délibérément de laisser sur le carreau un bon nombre de Togolais qui doivent participer, qui doivent jouir de leurs droits. Je dis le seul légal qui place tous les Togolais au même niveau, c'est-à-dire que c'est un seul vote pour chaque citoyen. Et je le dis souvent, celui qui met plus de deux bulletins dans l'urne, il est voleur. Donc, par conséquent, la CENI, nous avons dit, tout le monde a dit ce qui a manqué, mais aujourd'hui, on constate que malheureusement, ça veut dire que c'est délibérément que cette commission a décidé de ne pas enrôler tous les Togolais. On a suivi comment le processus s'est passé depuis Lomé avec les problèmes, dans la deuxième zone. Et alors qu'au niveau de la troisième zone, on a constaté que les choses sont allées normalement jusqu'à on dénombre. Et c'est dans cette zone-là, la troisième zone, qu'on a dénombré l'enroulement des mineurs. Sinon, dans les premières, deuxième zones, on n'a pas eu ça parce que les grands n'ont pas eu le temps de se faire enrôler par rapport à la densité de la population, comme l'a prouvé le dernier recensement électoral. Donc, on constate que la CENI a choisi des zones qui ne sont pas favorables à leur système, d'accord, et Crescendo est arrivé dans une zone où on a fini d'enrôler même les grandes personnes, c'est-à-dire les majeurs, pour aller même vers les mineurs. Donc, l'opération qui devait se faire aujourd'hui, ce n'est pas l'appurement de la liste, ou bien concomitamment, on devait ouvrir, c'est-à-dire que revenir pour recenser et reprendre ceux qui n'avaient pas été enrôlés.
Mais là aussi, on vous dira qu'il y a au moins un délai quand même pour faire tout cela.
Mais un délai, mais pendant qu'on est, je dis concomitamment ou autre chose, on peut, d'accord, relancer la zone, la première zone, pour pouvoir et recenser les gens. Imaginez que moi, personnellement, je n'ai pas pu me faire enrôler à Lomé. C'était lors d'un voyage dans la zone 2 à Kpalimé que j'ai pu m'enrôler. Et comme je l'avais, comme c'est conçu le système, en s'enrôlant dans la zone 2, la zone 3, on précise que le lieu de vote et on clique sur l'onglet qui permet d'imprimer la carte selon la zone. Donc, si je n'avais pas eu un voyage, je ne serais pas enrôlés. Mmh. Maintenant, prenez tout le nombre de Togolais, peut-être plus de, disons, 900 000 encore non enrôlés. Imaginez, est-ce qu'ils vont, ils devaient voyager? Est-ce que les gens ont les moyens pour voyager et aller se faire enrôler ailleurs? Non. La CENI a décidé délibérément, c'est ce que nous constatons, c'est ce que elle nous donne l'impression de voir qu'elle a décidé délibérément d'éliminer une grande frange de la population togolaise de leur droit d'exercer leur vote.
Et Fimette Kouagbo, alors, est-ce que vous avez aussi la même impression que la CENI a décidé alors délibérément alors de laisser sur le carreau certains citoyens togolais pour ce qui concerne l'opération d'enrôlement?
Non, moi, je pensais comme ça parce que peut-être que je dirais que la CENI est de mauvaise foi. Sauf que je ne peux le dire parce que la bonne foi est présumée. Moi, je présume que la CENI est de bonne foi. dans la mesure où moi, je peux dire que la CENI ou la nouvelle équipe de la CENI est en train de subir une certaine tradition. C'est-à-dire, c'est dans la tradition du Togo avec ces sortes de recensements, c'est toujours la même chose qu'on observe. C'est-à-dire, on observe peut-être dans la première zone, ça ne se passe pas bien, et après on ajoute quelques jours, on va dans les autres zones, c'est la même chose. Donc, l'équipe qui est arrivée donc, a vu que ça a toujours été comme ça, donc on ajoute des jours supplémentaires et on met tout le monde sur le, ou toutes les zones sur le même pied d'égalité. Et c'est ça, en fait. Et moi, je dis, on peut changer. Pour l'avenir, on peut améliorer. Parce que dans certains pays, on consacre plus de temps à cette opération de recensement. Donc, ce que moi, je souhaiterais pour l'avenir, c'est que... Parce que je voudrais plus revenir sur ça, parce que la CENI a déjà clos le dossier, bien que certains partis politiques aient fait la demande qu'on ajoute d'autres jours à certaines zones ou qu'on accorde d'autres jours à certaines zones. Ce que moi, je demanderais, c'est que le recensement se fasse au même moment dans toutes les zones et qu'on consacre un mois à ça.
Mais là aussi, c'est des questions alors de moyens techniques et aussi de personnel.
Oui, du personnel, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on cherche un peu d'argent pour ça, parce que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague où on dit on accorde peut-être une semaine, 10 jours, allez vous faire recenser, ou peut-être tout le monde n'était pas préparé pour. Parce que vous savez qu'au départ, la communication n'a pas été suffisante. Au niveau de la CENI, surtout dans la zone 1, la communication n'était pas suffisante. C'était les journalistes, les organisations de la société civile et les partis politiques même qui ont fait la communication à la place de la CENI. Donc, et beaucoup ne s'étaient pas préparés pour. Peut-être c'était les derniers jours que les gens se sont dit, tiens, il faut que j'aille me faire recenser. Parce que les gens n'ont pas que ça à faire aussi, il faut le reconnaître. Donc, à ce niveau, je demanderais à l'État de chercher beaucoup plus de moyens pour doter la CENI d'un certain nombre de moyens. Quand la CENI va avoir beaucoup de moyens, elle va avoir les moyens pour recruter et avoir les matériels nécessaires dont elle aura besoin. Donc c'est pour ça que je dis, mais pour à l'avenir, il faut que l'État mette les moyens pour qu'on consacre un mois à l'opération de recensement. Un mois. Ça veut dire que lorsque le recensement se passe dans la zone 1, ça se passe également dans la zone 2, la même chose pour la zone 3. Et donc, toutes les zones ont un mois pour faire enrôler les populations. Et là, on aurait moins de critiques parce que 10 jours, ça ne suffit pas. Du moment où il y a des Togolais qui vivent dans une certaine précarité, ils veulent chaque fois lutter contre le vent pour pouvoir chercher à manger. Donc, ils se disent, ils ne trouvent pas d'importance en allant se faire recenser. Alors que c'est aussi un faux débat. Tout le monde doit avoir sa carte d'électeur parce que c'est un devoir civique.
Donc, c'est un droit aussi, bien évidemment.
C'est un droit.
Voilà, Gosson, c'est vrai qu'il y a certains partis politiques et surtout de l'opposition qui ont dénoncé un certain nombre alors d'irrégularités dans cette opération. Mais finalement, ils ont demandé, même ces partis politiques ont demandé même d'ailleurs qu'il y ait le prolongement, surtout dans la zone 1. Finalement, ils n'auront pas raison.
Bon, d'abord, mon confrère Francis a pratiquement tout dit. Mais je tiens à rappeler ceci. Quand on évalue la population de toutes ces trois zones, on verra tout de suite qu'il y aura une zone où elle est plus dense. Mais pourtant, c'est le même nombre de jours et le même nombre de jours de prorogation qu'on a accordé à chacune de ces zones, ce qui n'est pas normal. Maintenant, on risque d'être lésé, certains citoyens risquent d'être lésés, ou alors certains partis politiques pourraient être lésés doublement. Je m'explique. Nous sommes en juin où l'opération vient de se terminer. Et bon an, mal an, je constate heureusement que on va vers une forme de couplage des deux élections, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut organiser deux élections de juillet à décembre. Donc si ça sera une seule échéance, à supposer que ce soit ça se tienne en novembre ou en décembre, par rapport à la date de recensement, il y aura beaucoup de Togolais qui atteindront encore la majorité. Mm. Mais alors, est-ce qu'on va leur... Qu'est-ce que la CENI prévoit pour que ceux-là qui auront 18 ans avant la prochaine échéance aient leur carte? Qu'est-ce que la CENI prévoit? Donc ça voudrait dire que non seulement dans la zone 1, il y a des gens qui ont été laissés sur le carreau, mais avec le temps, ce serait l'ensemble des trois zones. Maintenant, allez comprendre pourquoi chaque fois, c'est pas la zone 1 qu'on commence le recensement. Moi, j'aurais aimé que les quoi qu'il y a eu là, que ça se déroule dans la zone 2 ou dans la zone 3 d'abord, et que Lomé, la région intime et autres, close le débat. Mais parfois, c'est toujours par ici. Or, chaque fois, il y a des problèmes au début. Mais on refuse de permettre à chaque citoyen. Ce sera du vol. Si je me suis déjà fait recenser, je n'aurais plus de raison d'y aller. Et pourquoi ne pas permettre à chacun, quand on parle de moyens financiers, ce n'est pas moi qui ai dit que nous voulons organiser des élections sur fonds propres. Il y a des partenaires qui sont disposés à nous accompagner. Mais va comprendre pourquoi est-ce qu'on refuse l'aide de ces partenaires, parce qu'il y a des conditions. On ne veut pas se soumettre à ces conditions. Et donc, on crie comme quoi élections sur fonds propres.
Élections sur fonds propres. Olivier Adja, bonjour. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes rejoints par Olivier Adja et Germain Pauly à l'heure du journal Togo Réveil. Olivier, c'est vrai que nous sommes en train de discuter de cette question à l'heure de recensement, et c'est vrai que le prix de terrain est fini, parce que on parle maintenant à l'heure de l'apurement du fichier électoral. Et finalement, est-ce que vous avez l'impression, comme peut-être Franco l'a dit tout à l'heure, que le chien aboie mais la caravane passe, par rapport surtout au fait que il y a des irrégularités qui ont été constatées, mais finalement rien n'a changé?
Oui, bon, il y a des irrégularités, je ne sais pas de quelle nature, mais pour ne pas donner l'impression qu'on défend la CENI, il faut quand même dire qu'il y a un chronogramme. Il y a un chronogramme pour le processus électoral et pour l'organisation des élections. Si bien que, et dans ce sens, la CENI est maître du jeu. C'est elle qui décide ce qui va être fait. En tant que citoyen, j'aurais préféré que on puisse donner l'occasion à tous ceux-là qui n'ont pas eu la chance de se faire enrôler, de le faire. C'est le principe. Et dans ce sens, cette demande ne peut être qu'une requête que la CENI va étudier, et si elle accède, c'est bien. Si elle n'accepte pas, ce n'est pas encore la fin du monde. De toutes les façons, la CENI, elle a un agenda, elle a, je sais pas, une mission qu'elle accomplit. Donc, elle est en train de dérouler cet agenda-là. C'est vrai que certains ont noté par-ci, par-là, certains problèmes. Je ne sais pas s'il faut parler d'irrégularité, puisque nous avons entendu qu'ailleurs, les gens ont vu des mineurs être enrôlés. Ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais au final, c'est la CENI qui fait ce travail, et ils nous ont annoncé un travail d'épurement du fichier. C'est aussi un travail très important. Je ne sais pas comment on peut épurer et faire sortir les mineurs, mais au moins, quand vous voyez la photo d'un mineur, vous pouvez savoir. D'accord? Donc, il faut un travail d'épurement en fonction des images. Il y a même des logiciels aujourd'hui qui peuvent déterminer certains limitages. D'accord? Et puis les doublons, etc., etc. Bon, la CENI n'a pas accepté, ou jusqu'à maintenant, on ne nous a pas dit qu'elle va reprendre le processus dans les zones où il y a eu des difficultés pour certaines zones, y compris moi, puisque je ne me suis pas fait enrôler. Donc, d'avoir la carte. Mais quand même, la requête est posée par nous en tant que journalistes, mais par les leaders d'opinion, les petits. Retenons quand même qu'au final, c'est la CENI qui va décider. Peut-être le gouvernement peut intervenir, mais la CENI a le dernier mot de dire oui, on le fait, on le fait pas. Bon, c'est la règle du jeu, il faut quand même se... C'est comme les lois de la République, parfois c'est difficile. On n'aime pas mais parfois on nous les applique quand même.
J'aimerais, c'est vrai que après tout c'est lui qui va décider, mais il faut quand même que ce processus soit inclus alors tout le monde, que ça soit inclusif.
Oui, c'est vrai, on a déploré le fait que à Lomé, du fait de l'insuffisance qu'on a constatée au niveau du personnel déployé,
oui,
le travail n'a pas été rapide et malgré la prorogation, il y a plusieurs sont à Lomé qui n'ont pas pu se faire recenser. Mais la CENI, à la fin du processus à Lomé, avait estimé qu'elle avait atteint ses objectifs sur Lomé par rapport au recensement général de la population et par rapport aux autres opérations qu'ils faisaient dans la zone. Elle estimait que le nombre qu'elle attendait à Lomé, c'est plus ou moins ça.
Est-ce que ça veut dire que la CENI a déjà défini un nombre?
Non, la CENI n'a pas défini. Mais par exemple, si la CENI, je donne un exemple, hein, si la CENI entendait, selon les projections, avoir environ 2 millions, bon disons 1 million 500 électeurs à Lomé, elle arrive à avoir 1 million 400, elle peut se dire que c'est plus ou moins la même chose. Et c'est qu'il y a quand même une 100 000 personnes, par exemple, qui n'ont pas pu s'inscrire, mais si elle avait peut-être 700 ou 800, elle se dit, mais c'est assez loin des projections. Je crois que c'est peut-être dans cette logique-là. Mais après, je pense qu'au-delà de cela aussi, nous négligeons un peu le recensement. Vous savez, moi, je suis allé qu'une seule fois. J'ai dû attendre plus de 5 heures de temps. J'étais avec ma femme qui était pressée de repartir. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai obligée à attendre. C'est fatigant d'attendre et de faire ça. Donc, les gens n'ont pas que ça à faire. Donc, ils préfèrent faire autre chose. Et après, du coup, vous n'êtes pas recensé. Mais de la même manière qu'on peut passer un temps fou à un commissariat central pour faire sa carte d'identité, je pense qu'il faut aussi avoir la même patience et le faire. Je ne dédonne pas la CENI, mais l'objectif même, à mon avis, serait d'arriver à avoir une identité numérique pour tous les Togolais. Et quand vous avez 18 ans, on sait que vous pouvez voter, et on vous envoie juste un SMS ou un courrier.
Tout à fait.
Pour éviter ces dépenses-là d'abord. Et puis c'est précis comme ça se fait en Occident. Et le Togo évolue sérieusement dans la matière de digitalisation. Il y a ce projet d'identité numérique pour chaque Togolais. Si on avance, on n'aura plus à faire des dépenses pour déployer des gens, même dans des zones où trouver un logement est très compliqué et tout ça. Donc, s'il faut qu'on avance, j'espère que d'ici les prochaines élections, on va y arriver. Mais après, je pense que à Lomé, on estime que tout le monde a perdu. Ce n'est pas seulement un parti politique qui va dire « j'ai pas mes militants qui sont enregistrés », mais c'est tout le monde. Tous ceux qui ont été en retard ou tous ceux qui n'ont pas pu, du fait de l'affluence, parce qu'il faut aussi le rappeler, particulièrement cette année, il y a une grande affluence, ce qui n'est pas le cas lors des autres processus. Donc ça a été fait. On aurait souhaité que la CENI revienne à Lomé, mais elle estime que c'est plus ou moins cela. Et donc, je crois que c'est un peu comme les formalités administratives. Je rappelle aussi à nos confrères que demain, c'est la clôture pour le dépôt des dossiers d'aide de l'État à la presse. C'est aujourd'hui.
Justement, c'est aujourd'hui.
Mais si vous ne le faites pas aujourd'hui, il arrive qu'il y a des confrères qui n'ont pas bénéficié de ça, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'au soir, ça va être un peu ça. Donc, après, c'est l'administration. Malheureusement, il y a des enjeux politiques derrière. Et quand les acteurs disent qu'ils ne sont pas satisfaits, ça jette un peu de doute. Mais en même temps, je crois que avant, il y a des institutions comme la francophonie qui avaient l'habitude de valider le fichier électoral togolais, comme ça se fait actuellement. Ça a failli se faire en RDC, sauf que là, finalement, ce sont quelques experts africains qui ont fait le travail. Mais depuis un temps, toutes ces institutions l'accompagnent, le Togo, et estiment que les choses se font plus ou moins bien dans notre pays. Et peut-être, je crois que c'est plutôt à saluer. C'est vrai que mon confrère Godson se plaignait qu'on finance les élections sur fonds propres, mais moi je pense plutôt que c'est une bonne chose. Il ne s'agit pas de financer et d'organiser la fraude, Mais c'est le premier acte de souveraineté. Nous allons élire nos représentants. Et c'est anormal que ce soit des pays ou des institutions étrangères qui nous donnent l'argent pour élire nos représentants. Demain, on va leur demander de nous payer nos fonctionnaires. On va leur demander de faire... Non, il faut aller vers l'indépendance. Et moi, j'encourage les pays, les Africains, qui attendent toujours l'Union européenne et les autres institutions pour organiser les élections, de faire un peu comme le Togo.
Mmh, jamais merci. Fumé ?
Non, je pense que Germain Pouli a déjà abordé ce que je voulais faire évoquer, surtout avec ce que Gonçalves a dit. C'est-à-dire, au final, si on continue dans cette même tendance, on va toujours risquer de frustrer, de léser un certain nombre de personnes. Donc, il faut aller à la numérisation totale. C'est-à-dire qu'on est avec la digitalisation, lorsque tu nais, tu n'auras plus à te faire recenser avant de savoir si tu vas voter ou non. Donc, tu nais, lorsque tu attaques, même avec ta carte d'identité comme ça, tu peux aller voter simplement comme ça. Je pense que si on va à cette étape-là, on va éviter un certain nombre de choses. Et puis, c'est des milliards qu'on dépense pour se faire recenser, alors que ces milliards pourraient peut-être servir à construire des écoles, des hôpitaux et autres, quoi. Donc, bon, je pense qu'il faut aller à la numérisation.
Il faut aller à la numérisation. Franco ?
Que dit la décentralisation ? Nous avons nos municipalités. Et ces machines-là, même ces machines qu'on utilise aujourd'hui pour le recensement, vous voyez la lenteur. C'est des vieux machins. Hein, aujourd'hui, là, il y a les corps, tout ça là. C'est le logiciel qu'il faut installer. Et puis, la différence, c'est ajouter la caméra. Et donc, les municipalités peuvent avoir les arrondissements deux ordinateurs de ce genre. Et comme l'a dit Firmé, on peut étendre l'opération sur toutes les zones du territoire en un mois, à défaut d'avoir l'identité numérique, qui aussi est un budgétivore quelque part, est un projet budgétivore quelque part. Donc, ce qu'on dit, c'est que le recensement ne doit pas être un truc qu'il faut faire et comme ça a été. Donc, il faut le rendre un truc professionnel, technique, et non politique, comme on le constate.
Voilà. Et Gasson, beaucoup de gens, tels que Francisco l'a dit maintenant, beaucoup de gens se parlent plus d'une CENI technique, et qu'il faut plutôt aujourd'hui passer de la CENI politique à une CENI technique, que c'est ce qui doit être alors bon pour le Togo.
Oui, mais pourquoi tu me retournes la question? Puisque toi-même, au fond de toi, tu sais que c'est une question de bon sens. Quand c'est technique, ça ne tient compte d'aucune considération politique. Mais quand c'est l'inverse, c'est à qui va tirer le plus le drap de son côté. Mmh. Et donc, on est en attente. Si on peut faire de cette CENI une CENI technique, au moins moi j'applaudirai. Mais ça va si nous serons tous là à applaudir. Mmh. Parce que certains n'y verront plus leur compte. Ils n'y verront plus leur compte, ceux qui y trouvaient leur compte.
Donc, il y a des gens qui trouvent leur compte dans cette CENI politique telle que ça se présente, c'est ça?
Et comment? Mais ne me demande pas de te dire qui sont ceux-là qui y trouvent leur compte.
Voilà, c'est ce que je vous demande.
Ne me fais pas manger ton piment.
Je suis un peu d'accord avec le maire. L'autre partie de mon raisonnement va le décevoir. Ce que Gonson dit est important, c'est-à-dire il faut dépolitiser les élections, au fait. Parce que quand vous avez une organisation, c'est-à-dire la CENI, où les partis politiques ont leurs représentants, c'est déjà quelque chose, au fait. Donc, si on va à une CENI technique, est-ce que ça peut régler l'affaire? Le Ghana a une CENI technique, mais chaque fois, on conteste les élections dans ce pays. Donc, au fait, moi, je ne suis pas pour les CENI. Cette histoire de CENI en Afrique, c'est un faux problème. Il faut sortir de ça. Il faut que les gouvernements soient responsables d'organiser les élections.
Comme aux États-Unis.
Oui, comme aux États-Unis en France. On n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, on a créé les CENI parce qu'on disait qu'il y avait une crise de confiance. On n'a plus confiance au gouvernement. C'est pour cela qu'il faut aller à une organisation pour organiser. Ouais, et puis, c'est pour cela qu'on dit commission électorale nationale indépendante. Ailleurs, c'est autonome. Vous imaginez? Donc, mais ces commissions indépendantes, maintenant, sont toujours critiquées de ne pas être indépendantes. Donc, je me dis qu'on n'allait pas régler le problème après plus de 30 ans d'histoire de démocratie. Donc, il faut sortir de cette histoire de CENI et que les gouvernements se rendent responsables d'organiser les élections. Mais encore que les élections constituent un problème délicat. Même dans les pays où il n'y a pas de CENI, on conteste les élections. Aux États-Unis, ce n'est pas Mitt Romney qui a organisé les élections, mais Donald Trump conteste les résultats des élections jusqu'à présent. Il dit que Biden l'a volé. Alors qui vole, qui organise? C'est ce qu'on ne comprend pas. En France, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Ségolène Royal et Mathilde Aubry lors des élections du PS. Ségolène Royal, c'était elle qui devait gagner, mais elle a dit que les résultats étaient fraudés. Il n'y avait aucune CENI là-bas. Mais on a dit que les élections étaient fraudées en faveur de Mathilde Aubry. Et puis Ségolène Royal a dit, mais ça lui paraît bizarre que c'est leur responsable qui donne des leçons de démocratie ailleurs en Afrique contribue à frauder les élections en France. Non, les élections, c'est un problème délicat. Moi, je pense qu'il faut réfléchir, mûrir les réflexions pour aller à une étape beaucoup plus importante que de consacrer notre temps à des disputes, excusez-moi, inutilement politiques, semi-techniques, semi-politiques, ou pas de semi. C'est un problème. Moi, je me dis, il faut que le gouvernement se rende responsable. C'est vous qui êtes le gouvernement. Organisez des élections pour que les gens gagnent, et puis c'est fini. Oui, s'il y a quelqu'un qui, pour gagner, que la personne gagne, et puis il y a quelqu'un à perdre, que la personne perde, et puis c'est fini. Que ces histoires du CENI, là, ça va rien résoudre comme problème.
Non, mais moi, je crois que ce que mon confrère dit est un peu. Ça pose problème. D'accord. Olivier? Parce que dans tous les cas, une élection n'est pas organisée pour le gouvernement. C'est organisé pour le peuple.
Non, j'ai pas dit que
le peuple. Oui, non, j'en viens. C'est organisé pour le peuple.
Oui.
Et le peuple est concerné. Doit avoir ses yeux, comme on le dit de façon triviale, dans ce qui se fait. D'accord. Et il faut plus ou moins donner de la confiance. C'est ce à quoi nous sommes arrivés, parce que c'est feindre d'ignorer notre histoire que de dire qu'il faut seulement laisser le gouvernement organiser. Alors qu'on sait qu'en 1998, si je ne me trompe pas, il y a eu un problème. C'est le ministère qui organisait les élections. Et on sait ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on le crée. Des institutions qui sont soit chargées d'organiser ces élections. D'accord. Maintenant, si on fait l'audit ou le bilan et qu'on estime que ça n'a pas été bon et qu'on revienne à l'ancien système, pourquoi pas? Ça doit être décidé de façon et consensuelle. D'accord. Donc, personne ne doit décider de dire que non, on va revenir et de façon, je ne sais pas, unilatérale à ce système qui était dénoncé, nous savons, qui était chrysogène, qui avait des germes. Donc, des crises que nous avons connues. D'accord. Aujourd'hui, la CENI, oui, on peut tout le reprocher, mais on peut tout lui reprocher, mais plus ou moins, les gens acceptent malgré tout les résultats. D'accord. Donc, faisons plutôt, cherchons à améliorer ce que nous avons tous accepté déjà. Au lieu de dire qu'on retourne à ce que nous n'étions pas d'accord de façon unanime, donc on retourne à ce système.
S'il vous plaît, je vais lui répliquer un peu.
Très rapidement.
Non, c'est pour le taquiner. Olivier, c'est un grand frère à moi. Au fait, ce que je voudrais dire, quand il dit les gens acceptent les résultats, je
n'ai pas dit les gens acceptent. Il dit plus ou moins.
Mais jusqu'à présent, pour l'élection de 2020, il y a toujours des gens qui contestent les résultats. Après plus de 20 ans,
des alliances de la série, on a nous avons connu entre 98 jusqu'à.
Oui, mais c'est-à-dire après plus de 20 ans. Il y a toujours des problèmes. Et bien sûr, si c'est comme ça, et puis c'est la même chose en Afrique, d'après tous les pays qui ont adopté. Oui,
pratiquement dans tous les pays.
Pratiquement dans tous les pays. Je me dis, mais si ce que nous avons, la démarche que nous avons adoptée, c'est Panama, près de 30 ans, si ça pose toujours problème, mais réfléchissons pour aller peut-être à une autre étape, pour voir.
Dans les pays aussi qui ont gardé le système de l'administration territoriale, il y a aussi des problèmes. Tu ne vas pas nous dire que c'est le meilleur parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que dans ces pays-là aussi, les gens contestent.
Et je l'ai dit, il faut réfléchir à une autre, peut-être à une autre étape.
Et c'est une proposition que
c'est une proposition que je fais.
Mais il y a un avantage avec la CENI, c'est qu'au moins parfois il y a des représentants de l'opposition et des structures sociales. Puisque certains
contestent,
je n'ai pas refusé, mais certains refusent d'aller, alors qu'ils disent que ce sont eux les plus représentatifs. C'est pourquoi. Donc, l'opposition est représentée au moins dans la CENI. Je ne sais pas si dans l'administration territoriale ou dans le gouvernement, l'opposition ira s'asseoir, prendre un poste ministériel pour observer, hein. Mais là, il faut quand même réfléchir à tout cela.
Voilà, nous allons quitter rapidement cette question alors de la CENI, mais nous restons toujours avec les partis politiques, parlant des échéances électorales, bien évidemment, qui nous attendent. Donc, c'est vrai que depuis un temps, nous avons constaté qu'il y a certains partis politiques, surtout de l'opposition, dans lesquels il y a un peu de dissidence, il y a des problèmes, et ces problèmes ont fait même d'ailleurs qu'il y a certains qui ont été exclus. Et il y a certains partis même d'ailleurs qui ont eu alors tellement de soucis. Mais le parti au pouvoir aussi n'est pas épargné. Ce matin, il y a le journal Kana Indépendant qui titre à sa une « Soupçon de dissidence, dissension, gros malaise à unir ». Et je vais vous livrer le chapeau alors de notre confrère. Alors, l'ancien ministre de Fort Gnassingbé en charge des armées, Nyakade Maguérite, n'est pas alors au bout de ses peines, moins d'un an après son éjection du gouvernement, pour des raisons officiellement inavouées. Elle vient alors de se faire exclure sans procès et de son propre mouvement, l'Association des Jeunes Sans Frontières pour le Développement du Togo, JSFDT, et qu'elle préside jusque-là. Et c'était au cours alors d'une assemblée générale extraordinaire consacrée aux récents événements, notamment les errements alors de certains membres en réaction, l'infortuné accuse des mains noires tapis alors dans l'ombre qui veulent déstabiliser son association. D'aucuns y voient le syndrome de la division gagner le parti au pouvoir. Alors, c'est là le chapeau. Francisco, on dirait que le parti au pouvoir aussi n'est pas épargné par ces questions alors de dissension en son sein.
Oui, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on voit, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, depuis quelques mois, sinon depuis longtemps, c'est comment on appelle, les partis de l'opposition qui ont des dissensions, et puis ça s'effrite, et d'autres vont créer, même au RPT, devenu unir. Il y a eu ce problème par le passé, lorsqu'il y avait le courant des rénovateurs d'incorporer Agbayomi. On a vu ce que cela a donné. Et avec le temps, le parti a pris beaucoup d'eau. C'est même pourquoi il y a eu cette fusion, dissolution, fusion qui est égale à création. Et quand vous voyez, le parti était resté sans avoir, disons, fait son congrès. Jusqu'en 2017, lorsque Tipi Atadam a sorti son mouvement, que le parti s'est efforcé. Et là même, le chef du parti, Fort Gnassingbé, l'avait dit au moment du congrès de Tchévié. Et même jusqu'à présent, on peut dire même le bureau du parti est illégal, puisque ce n'est pas complet. Le secrétaire de la région Kara n'a pas été et nommé. D'accord ? Jusqu'à ce jour, parce qu'on n'a pas trouvé qui nommer pour faire consensus. Ça veut dire que le problème était là, mais seulement c'est que dans ce grand parti qui dispose le bâton, le bâton, parce que si tu sors la tête, on te la met dessus, on peut te dépouiller de tout. Si vous voyez même le cheminement de Kwaki Nyasimbe, parce que nous, à l'époque, au sorti des élections 2017, il y avait eu un politique du professeur Seylanta, qui avait à l'époque classé les députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ceux-là, même que Kwaki Nyasimbe a soutenu dans le parti, c'est-à-dire qu'il avait son aile dans le parti, qu'il avait soutenu jusqu'à sortir, et ceux-là qui sont susceptibles de faire coalition avec lui pour faire les votes de défiance à l'époque, quand vous voyez sur l'Assemblée de 21 membres, je crois qu'il y avait 7 pour Kwaki à l'époque. C'est ça qui a fait que même entre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, après que Abasbo ait accordé le vote au bulletin secret, a demandé une suspension de séance pour revenir imposer le vote à la main levée afin de pouvoir contrôler ceux qui vont. Donc, la dissidence, c'est-à-dire que les problèmes au niveau de l'UNIL, sauf que le parti a le bâton, d'accord, pour pouvoir remettre. Et tous ceux-là qui veulent avoir le mauvais esprit qui divise l'unité nationale, de les ramener à l'ordre. Donc maintenant, ça évolue, et la dernière phase, nous l'avons vu, c'est des communiqués. Ça, c'est pas des rumeurs, parce que c'est des communiqués d'association, même si au journal de 13h, JT, on passe une association pendant une minute, d'accord, au journal JT. Nous, on attendait que si on avait vraiment une hacke, le lendemain, la hacke sortait une autre, on me rappelait le métier à l'ordre. Ce n'est pas seulement les privés qu'il faut taper dessus. Il faut rappeler à la chaîne étatique que ce qui s'est passé, c'est une violation, sinon ce n'est pas d'ontologie. Mmh. D'accord. Donc, et on a vu comment Mme Nyakade a été, disons, en quelque sorte, lynchée. Où on dit qu'elle est radiée dans ses membres, que des membres sont radiés. En fait, ce qui se passe à l'UNI, ce n'est pas Mme Nyakade, ce n'est pas qu'elle est en train de créer une forte partie de l'opposition. Normalement, même le parti uni, tel que le grand parti, comme on le dit, Frédéric Firmin, va nous donner encore des indications précises. Et merci. Ce parti devrait permettre, en son sein, démocratie, qui devait avoir des courants de pensée. Mm. Se fait dans tous les grands partis politiques, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, d'accord, pour que les gens puissent s'exprimer. D'accord. Ben, vous avez des gens que vous avez étouffés pendant des années, et on dit, lorsque on garde pendant longtemps la salive dans la bouche, ça devient la barbe. Mm. Donc, on est sur le cheminin, mais je dis que ce parti a les moyens, d'accord, tous les moyens, d'accord, de ramener tous ses membres dissidents, soit on te carte pour de bon, tu deviens pauvre. Ou si tu es habitué à manger le caviar, tu es obligé de revenir pour continuer pas à manger. Mmh. C'est ça qui retient le parti.
Mmh. Olivier, finalement, ce n'est pas seulement les partis politiques de l'opposition, seuls qui font objet maintenant de ces dissensions. Et le parti au pouvoir aussi, bien que visiblement organisé, on voit quand même qu'il y a des soucis.
Mais disons que là où il y a un groupe de personnes, ce serait bizarre, moi je dirais même dommage qu'il n'y ait pas de crise. Mmh. Puisque les crises sont les ferments qui font développer les sociétés. Sans crise, je crois que le monde serait en retard. Bien sûr.
Bien sûr.
Donc,
l'a démontré.
Et COVID la crise, l'a démontré. La crise, elle est partout. Elle est consubstantielle même à la création du monde. C'est vrai que on a vu des déclarations de certains pontes ou de certains cadres d'unis qui faisaient croire qu'il y avait trop de crises dans l'opposition et qu'ils n'étaient pas contents. Mais Dieu, sachant bien distribuer les choses à temps et en heure, je crois qu'il s'est rappelé aussi de... Puisqu'il se plaignait.
En leur donnant de crise.
Ah, mais bien sûr qu'il se trouvait qu'il y a de l'autre côté, en face, il y avait trop de crise, et chez eux, il n'y en avait pas. Donc, c'est ça. Mais il faut pas. C'est vrai qu'on a toujours donné l'impression que UNIR est un groupement homogène, totalement sans crise. Mais il faut. Et de trompons-nous. Je crois que c'est un océan dont la surface est très lisse. Mais en dessous, c'est un mouvement de volcan. D'accord, c'est une activité volcanique qui a derrière UNIR et derrière tous les partis, tous les groupes politiques, aussi bien au monde qu'au Togo. La différence, c'est que UNIR arrive plus ou moins à mieux gérer ces crises que l'opposition. C'est toute la différence, à mon sens. À gérer la crise à l'interne et que ça ne puisse pas, ou bien le linge sale ne puisse pas se laisser se laver en public. D'accord. Alors que le contraire, l'opposition, et l'autre, sa marque de fabrique, c'est de laver le linge sale en public. Pendant que de l'autre côté, on arrive. Certainement, on a les moyens pour gérer les choses, pour faire, pour calmer les gens, etc. Ça aussi, c'est une vérité. Mais dire qu'à UNIR, il n'y a pas de crise, je crois que c'est se tromper lourdement. Celle-ci est une crise. Il y en aura encore. D'accord. Maintenant, celle-ci, elle a été plus ou moins mal gérée. Mais on ne peut pas toujours gérer des choses de façon, en tout cas, à faire à ce que les gens ne parlent pas. Ici, c'est sorti. Et on a vu comment la ministre Nyakade a été éjectée du gouvernement. Tout le monde s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'elle a fait. Jusqu'ici, on ne peut pas répondre exactement donc à cette question-là. Aujourd'hui, on voit que le problème est plus politique que, je ne sais pas, professionnel ou je ne sais plus quoi. Mais c'est-à-dire c'est une question politique entre UNIR et donc sa militante et Nyakade. Bon, nous, en tant que journalistes, on est intéressés de savoir, mais ils ne sont pas obligés de nous dire quoi que ce soit. D'accord? Ils ont géré comme ils peuvent, et tant mieux. Le parti est toujours là, ça va continuer par travailler. C'est le plus important.
Fémé, nous parlions entre-temps lors des échéances électorales, mais aller quand même à ces scrutins avec crise, je pense que ça ne fera pas du bien quand même au parti au pouvoir.
Non, moi je vais vous décevoir, mais je me dis, je sais pas pourquoi les gens tombent dans le jeu de unir.
C'est quoi le jeu de unir?
Non, c'est-à-dire, et puis c'est comme... tout le monde s'attendait à ça, attendait ça, et puis on saute là-dessus, il y a crise.
Mais c'est de la même manière, quand ça s'est passé dans l'opposition.
Non, c'est de l'opposition, c'est une
affaire. Des gens s'en parlaient.
Oui, c'est comme on dit, tout le monde disait qu'au parti au pouvoir, il n'y a pas de crise, tout ça, et que c'est dans l'opposition. Et du coup, on voit que au niveau du parti, il y a crise. Moi, je me dis, c'est trop beau. C'est trop beau. Et puis si on perd du temps sur ça, moi je me dis que on a un problème.
C'est un événement, c'est
non, ce n'est pas un événement. C'est un pire phénomène. On n'a rien à voir avec ça. Et puis, excusez-moi, il n'y a qu'à avec une association. Et puis on traite ça comme ça. Et tout le monde s'en réjouit. Mais on n'a rien à faire. Excusez-moi, une seconde. Vous imaginez? Et puis les gens parlent de division. Quelle division? Écoutez, je sais pas, moi j'ai pas connu le temps, mais il y avait eu des Agbome Kodjo où Agbome Kodjo était parti avec un certain nombre de personnes. Mais vous que les gens ont connu, ont su comment Bodjuna était puissant dans ce pays. Mais Bodjuna, écoutez, vous avez vu comment il a été éjecté du gouvernement. Et là où se trouve maintenant, il y a beaucoup qui le suivaient à l'époque. Vous connaissez Pacha Nyasimbe, ministre de la Défense. Et vous voyez comment il a été traité. Et vous voyez tout cela qui le suivait. Mais le parti est toujours là. Oh, mais c'est ça les événements. Ça là, c'est pas un événement. Mais attendez, moi je ne vais pas perdre mon temps à analyser ça.
Je ne sais pas si lui-même, moi, on s'est concerté avant de rentrer en studio. Parce que, excuse-moi, avant la nomination de la dame, qui connaît Hounsounoubé à Paris, devrais-je me demander. Puisque, et ça a mis combien de temps avant d'être ressortie du gouvernement? Si elle était peut-être en mission, soit. Mais dans l'organigramme ou alors l'histoire de ce parti-là, Dame Nyakade se situe à quel niveau? Donc, si des gens, au lieu de s'occuper, de s'attarder sur des problèmes existentiels de notre pays, préfèrent discourir sur un épiphénomène, bon vent à eux, mais moi j'ai pas ce temps là. Excusez-moi.
Est-ce que c'est un non-événement? Puisque nous parlons de crise, est-ce que c'est un non-événement?
Bon, après les crises, on pense qu'il y a crise partout. C'est vrai que les crises ont été à la mode, surtout au niveau de l'opposition, surtout.
Tout à fait.
Au sein de ces partis qui ont perdu ou qui sont en train de perdre leur fondateur. Donc au CAR et puis à l'UFC où le leader a pris pratiquement sa retraite sans prévenir. Donc aujourd'hui on parle beaucoup plus de ça, mais après à UNIR, je crois que officiellement c'est pas UNIR qui est en crise, c'est un mouvement qui soutient UNIR, parce qu'il y a plusieurs mouvements qui soutiennent UNIR. Donc il y a une crise au sein de ce mouvement, ça
tout
on peut
fait.
Le dire, parce que on connaît la présidente de ce mouvement. Quand on organise une assemblée, on l'éjecte pour certaines raisons que seuls les membres connaissent. On peut dire qu'il y a crise dans ce mouvement qui soutient UNIR. Bon, maintenant, est-ce que ça donne un coup dur à UNIR? Bon, là, je crois que chacun a son avis là-dessus, mais je crois que les gens ont rebondi dessus beaucoup plus parce que il y a un cadre d'UNIR qui est sorti qui a semblé s'apitoyer un peu sur le sort de l'opposition et estimer que le sort de l'opposition est une préoccupation pour Unir, parce que Unir a besoin d'avoir en face une opposition assez solide. Donc on a vite fait de rebondir après. Ça reste quand même un événement autour d'Unir, mais pas au sein d'Unir, parce que il s'agit donc d'une association qui gravite au sein d'Unir, comme certaines autres associations, qui fait un travail sur le terrain. Mais encore une fois, on aurait souhaité que cette affaire soit gérée autrement, comme Olivier le disait. Unir a su désamorcer la crise. Maintenant, si cette association est autour d'Unir, c'est qu'elle devrait aussi savoir désamorcer les crimes. Maintenant, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Et pour le moment, il n'y a pas de grain à moudre, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, on attend de voir.
On attend de voir.
Si vous permettez, je peux ajouter quelque chose. En fait, la différence que nous, peut-être moi aussi, je n'arrive pas à faire, c'est qu'au niveau du parti au pouvoir, c'est un système. Mais au niveau de l'opposition, c'est des formations créées ou basées sur des individus. Donc quand l'individu part, mais tout le système s'effrite au niveau de l'opposition. C'est ce qui se passe avec Maître Agbouibor. C'est ce qui s'est passé aussi avec l'UFC et qui après ANC. C'est des systèmes ou des formations, des structures construites sur la base d'un individu. Mais ici, c'est un système. Donc si un individu a des problèmes, ne confondons pas ça au système. La preuve, il y a des qui a créé le système est mort. Rien ne s'est passé. Le système est encore plus puissant. Encore,
je suis pas d'accord avec
non, vous. Non, mais que... oui. Attendez, c'est la démocratie. Permettez que je parle.
Justement,
il y a des mains est mort. Je pense que en 2017, il y a des gens qui ont confondu parti au pouvoir et système. Ils ont vu ce qui s'est passé. Le système s'est remis en place. Et il est devenu encore plus puissant. Donc, évitons d'individualiser, de personnaliser les petites crises qui se passent et puis qu'on arrive à les confondre au système. C'est un système dans lequel l'individu même n'existe pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, on t'éjecte. Le système toujours tient toujours. Regardez les plus puissants qui ont existé dans ce système. Les Tidjani, les Tidjani que nous ne connaissions pas. Les personnes que nous avons connues. Et vous voyez, le système tient toujours. On a juste prouvé qu'en réalité, Mme Nyakade, bon, c'était qu'un individu. Sans elle, le système peut évoluer. Donc, il n'y a pas de crise au niveau du système au pouvoir.
Ok, merci. Firmin, oui, Olivier.
Non, je suis d'accord avec Firmin en ce sens que on a eu des Batchanya Singbe qui étaient des cadres bon, du RPT, autant de Patia et des Bojona, en réalité qui étaient au gouvernement, mais qui appartenaient plus à leur parti politique et qui sont partis et rien n'est arrivé. D'accord, donc c'était une crise. D'abord, c'est pour dire que le système RBT est uni aujourd'hui a connu plusieurs crises.
Tout à fait.
Contrairement à ce qu'on peut dire, il y a eu des crises qui concernaient des gens, voire des cadres plus importants que Mme Nyakade. Ça, c'est une réalité. Donc, ne nous trompons pas, les crises sont aussi à unir, étaient au RPT et ça va continuer. Maintenant, là où je me pose des questions dans l'analyse de Firmin, c'est que, vous savez, le parti qui est au pouvoir et après qui n'est pas au pouvoir, ce n'est pas la même façon de fonctionner de ce parti.
Tout à fait.
D'accord. On ne peut pas être au pouvoir et s'amuser avec des crises. C'est comme être sur des barils de pétrole et s'amuser avec des bombes. Vous ne pouvez pas vous amuser avec des allumettes quand vous êtes proche du pétrole. Donc là, partout, dans tous les pays, les partis au pouvoir savent toujours gérer des crises. Parce qu'ils ont d'abord les moyens et en richesse humaine, que voilà, donc matériel, technique, ils ont tout pour pouvoir gérer ces crises-là. Mais voyez les partis au pouvoir qui ont quitté le pouvoir, comment ça s'est passé. Après, et vous tirerez votre conclusion que ce n'est pas forcément une question. Bien sûr, au Togo, on a un système, je suis d'accord, mais le présenter comme ça, c'est oublier que le parti est encore au pouvoir. D'accord? Il faut dissocier ces choses-là. Demain, quand Unir va se retrouver dans l'opposition, on avisera et on verra comment ils vont gérer ça. Et c'est là qu'on va tirer toutes les conclusions. Donc, je crois que mon confrère est un peu plus pressé et a été trop vite en besogne.
Tout à l'heure, quand Germain disait qu'il y a un membre du parti au pouvoir qui se plaignait ou s'apitoyait sur le fait que en face, l'opposition n'est pas ce qu'elle devrait être. Il a juste omis de préciser qu'il y a une crise chronique que le parti au pouvoir entretient par rapport à l'opposition. Quand, par exemple, notre chef de l'État doit se déplacer dans un milieu, je ne suis pas sûr que c'est un courrier qu'on adresse au préfet du milieu. Et pourtant, tout se déroule. Mais juste pour que des formations politiques s'entretiennent avec leurs militants dans un lieu,
même,
voilà, des préfets, je dis, mais des préfets qui méconnaissent leur autorité, se demandent si on a eu l'autorisation du ministre. Ça, c'est des crises que le parti au pouvoir entretient permanemment et qui n'est pas de nature à faire avancer notre pays. Donc, mais parlons plutôt de cet état de choses plutôt que de ce dont vous venez de parler là.
Merci beaucoup.
Franco. Vous savez, quand j'écoute un confrère parler, je suis très sublimé, surtout que c'est que d'être aussi très admiratif par rapport à un parti ou un système. Un système, c'est Dao Coupéré qui l'avait dit. RPT, c'est pas un parti, c'est un système. Ça vient de Dao Coupéré. Mais être admiratif par rapport à un système qui écrase ses fils et ses compétences. Il parle qu'il n'y a pas de crise. Et Adama, oui, bien sûr, il était à la tête du pays, mais quand il est parti, avant l'arrivée de force, vous avez vu tout le massacre qu'il y a eu. Vous voyez toutes ces compétences, tous ces hommes qu'on est obligé. Et je l'avais bien précisé que, à tout moment, c'est le système à tout le bâton qu'il faut lorsque quelqu'un lève la tête pour taper dessus. C'est ça qui fait la vie, c'est-à-dire la continuité du parti. Mais n'oublions pas que derrière, tous ceux qui sont écrasés par ce système sont des compétences, sont des valeurs, d'accord, qui peuvent faire émerger, n'est-ce pas, ce pays. Et voilà là où nous en sommes. Donc, nous souhaitons que ce parti s'émancipe. C'est-à-dire qu'il y a des intelligences. Il y a des intelligences. Qu'on laisse les intelligences éclore pour que véritablement ce parti apporte quelque chose à ce pays et non vers le lendemain incertain où nous sommes en train d'aller. Regardez la crise économique. Regardez, lorsqu'on dit que les inondations c'est derrière nous, alors que c'est avec nous présentement. Et lorsqu'on parle de l'émergence, structuration de l'agriculture, structuration de l'agriculture, on retrouve qu'aujourd'hui le maïs, le tout, et tout a flambé de prix sur le marché. Mais ce n'est pas là ce qu'on appelle une gouvernance. Maintenir les populations dans la pauvreté, c'est cynique. Donc, Firmin, il faut que le parti qui nous gouverne, qui depuis près de 60 ans, il faut que ce parti véritablement se donne les moyens, reconnaisse les valeurs de ses fils et non lorsque quelqu'un veut émerger, qu'on tape dessus et donc qu'on l'assomme et ça fait des manques à gagner pour notre
pays. Merci beaucoup Franco. Il nous reste pratiquement 3 minutes alors avant de donner la parole à nos auditeurs, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce sujet. Nous allons faire juste un tour de table par rapport à ce sujet. C'est une alerte alors de notre confrère Ferdinand Haïté, alors qui est déjà dans un posting sur Facebook et alertait bien évidemment que sa famille fait l'objet d'intimidation, de harcèlement permanent de la part des individus non identifiés. Et donc, il y a le journal Canet Indépendant qui en parle aujourd'hui. Alors, Franco, c'est vrai, on connaît Ferdinand Haïté, il est aujourd'hui en exil. Vous savez bien l'affaire qu'il a amené en exil. Mais sa famille qui fait objet alors d'intimidation, je pense que ça doit craindre.
Oui, effectivement, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Malheureusement, au Togo, quand vous avez un nom et que vos propos ou bien vos actes ne vont pas dans le sens de ce que les gens veulent, c'est que ça devient un délit de famille. Je crois que Ferdinand a été là écrit. Quand vous prenez l'histoire du Togo, il y avait des gens comme les Bokoboso, c'est chef Germain. Mais lorsque on nous avait dit si que Bokoboso a tiré sur quelqu'un, mais cette famille, on dirait que ça n'existait plus. Les gens étaient obligés de changer de nom. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le délit de famille, ça se perpétait au Togo depuis des années. Mais ce qui arrive aujourd'hui à Ferdinand, j'ai dit, tout à l'heure, j'ai dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la force. On a vu Pascal Boudjouna ici. Pascal Boudjouna a dit, dans ce pays, on n'affronte pas un train de 800 tonnes. Mais je crois que peut-être au moment où il prenait sa dissidence, il a oublié que lui-même, il avait prononcé ses paroles. On a vu des puissants dans ce pays. Mais ça peut arriver à tout le monde. Donc que les gens ne se réjouissent pas de ce qui arrive à Ferdinand. Il n'a pas choisi d'aller en exil. Personne, parce que nous tous nous aimons ce pays, on veut y rester. Mais si les gens veulent croire que c'est en renvoyant deux citoyens à l'extérieur et faire du mal à leur famille, sinon tout ça, ce n'est pas normal, c'est aucun droit. Normalement, ces histoires, quand c'est sorti, le procureur peut se prononcer là-dessus. Le procureur peut se prononcer là-dessus. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et dire qu'on a, on a une justice, on a la sécurité, on n'a pas de problème.
Franco, merci beaucoup. Olivier, réaction rapidement.
Non, je crois que dans notre pays, chaque personne a droit à la sécurité. Nous avons une police, une gendarmerie, une militaire de la sécurité, tout cela.
Une justice.
Donc, si quelqu'un est menacé, normalement, la justice ou au moins la police doit lui assurer sa sécurité. Notre confrère, nous savons ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, il est contraint donc à l'exil. Et j'estime, et nous estimons tous que sa famille doit normalement bénéficier d'une sécurité optimale et que personne ne doit les déranger. Et la famille, il n'y a pas de crime ou de délit de famille. Et les infractions sont individuelles. D'accord ? Ce n'est pas parce que votre ami, votre mari est accusé de quelque chose que vous aussi vous êtes coupable. La famille, je ne vois pas pourquoi les gens vont épier, espionner la maison. S'il y a des preuves, je crois que la famille devrait en principe porter plainte et demander à ce que les enquêtes soient ouvertes pour cela.
Firmin,
moi je voudrais juste simplement dire que qu'on fasse tout, qu'on trouve un mécanisme adéquat pour que Ferdinand Haïté revienne au pays. Et puis on va éviter tout ça.
D'accord. Et Germain?
Oui, non, c'est à la suite de ce que Firmin a dit, c'est déjà de chercher à protéger cette famille-là, si tant elle est qu'elle est intimidée, je ne sais pas de quel type de menace il s'agit exactement. Donc il faut que la police se saisisse, l'autorité sécuritaire se saisisse de cette plainte-là, de ce cri d'alarme là, pour aller voir cette famille, voir concrètement qu'est-ce qui se passe et éventuellement renforcer la sécurité autour de cette famille, parce que c'est important. Vous savez, aujourd'hui le chef de famille n'est pas là, c'était un des nôtres, un journaliste, et il est parti en exil, et aujourd'hui si sa famille est menacée, c'est pas du tout bien. Déjà pour nous en tant que corporation, pour lui, parce que déjà vivre éloigné de sa famille, c'est pas évident, et maintenant s'inquiéter maintenant de la situation dans laquelle vit la famille, ça va être beaucoup plus difficile. Alors il faut que, je pense que la police devrait s'approcher de cette famille là, prendre cette alerte là au sérieux et voir concrètement qu'est-ce qui se fait autour de cette famille comme intimidation, et s'il y a une sécurité à déployer donc pour assurer donc à cette famille.
Merci Germain. Gosson?
Oui, je suis un apprenti journaliste en investigation. Je considère l'information que vous venez de me donner comme une information brute. À la fin de l'émission, je vais voir si je peux poursuivre et mieux me situer.
En fait, c'est le journal Canal Indépendant qui nous a donné toutes ces informations.
C'est un journal.
Justement.
Dont vous venez de donner le nom.
Tout à fait.
Je vous dis, je m'exerce dans un genre journalistique.
Je suis d'accord.
Donc je vais prendre l'information et je me réserve de me prononcer tout de suite.
Et continuer l'enquête, les investigations.
Pascal, okay. cette histoire, quoi qu'on le dise,
Franco,
ce n'est pas seulement les comment on appelle-t-on chez Ferdinand a été.
Par contre, je pense que oui, nous allons revenir sur le sujet, il n'y a pas de souci, mais puisque le temps nous talonne déjà, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et nous revenons juste après pour donner la parole à nos auditeurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Retour dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi. Vous avez compris déjà que nous avons débattu d'un certain nombre de sujets en studio ici et que maintenant nous allons vous donner la parole pour également nous poser des questions ou vos commentaires. Alors 22 21 33 74 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler alors dans cette émission et se prononcer sur les sujets. Un éditeur déjà en ligne. Allô?
Ah oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Didier.
Vivien.
Oui.
Poser une question. Le nom, c'est... Pardon?
Didier.
Didier, voilà. Ah, Didier. Allez-y. Oui.
Je voulais poser une question au monsieur Darry Kerila. Tout à l'heure, il disait que la CENI un chronogramme, c'est pour cela qu'il n'était pas retourné. Je vais lui poser la question. Est-ce qu'il y a le programme des élections? C'est par rapport à la date des élections que la CENI devait faire un chronogramme, voire je fais les recensements à telle date, je fais telle chose à telle date. Mais même si on veut défendre l'indépendance, il faut qu'on le défende avec un peu de tact pour que les gens ne disent pas que vous tenez parti. Parce que vous parlez de programme. Est-ce que lui, en tant que journaliste, connaît un programme de la CENI, des élections au Togo, et que l'on me dit la date de l'élection, c'est en fonction de ça qu'on pourra nous dire que la CENI ne peut pas retourner en arrière pour refaire les trucs dans la zone 1. Secondo, je voulais demander aux plus deux plus grands journalistes du Togo, là, j'ai nommé M. Pouli et M. le jeune là.
Firmin, vous voulez dire?
Firmin, les plus grands journalistes du Togo. Si depuis que les trucs sont en train de passer dans une heure là, leurs oreilles ne sont que branchées sur le problème de l'opposition, depuis que nous parlons de dissensions au sein de l'UNI, ils nous disaient que non, il n'y a rien, que seulement l'opposition qui n'est pas organisée. Donc on pourrait dire que même le UNI est un sac à problème. Donc du jour au lendemain, ça peut s'exposer à tout moment. Et je vous remercie.
Merci beaucoup Didier. 22 21 33 74 91 36 63 75. Un autre auditeur. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît.
D'accord, je vais le faire.
Oui, le nom c'est?
C'est Sylvain.
Sylvain.
Oui.
Allez-y.
Bon, moi je voudrais savoir, est-ce qu'on veut faire quelque chose de cette envergure-là, comme recensement? On ne peut pas le faire une fois de bon. Au Togo, on a l'impression que quand on veut faire les choses, on le fait à la plus près. Le recensement, c'est pour avoir un fichier fiable pour une élection, des élections présidentielles, législatives et autres. Pourquoi on veut le faire à la peu près? La zone numéro 1, j'ai considéré cette zone comme une zone d'essayage de ces imprimantes qu'on nous a amenées là. On a essayé les imprimantes là pour la zone numéro 1 là. Je ne sais pas. S'ils veulent, n'ont qu'à organiser un référendum de oui ou non pour sur la question s'il faut revenir dans la zone numéro 1. Point barre. C'est une nécessité. Il faut qu'on revienne dans la zone numéro 1, s'il vous plaît. Et pour le cas Ferdinand, franchement, nous sommes tous des Togolais. Il faut qu'on fasse l'économie de certaines choses. Pardon. Les parents de Ferdinand ont droit de vivre chez eux. Le Togo, c'est pour nous tous. Ferdinand est à l'étranger et ses parents aussi seront contrés à prendre des gens. C'est pas du tout honorable pour nous. Merci.
Merci Sylvain. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour. Oui, c'est Pélé.
Pélé.
Oui.
Allez-y.
Ok. Bon, je veux parler du recensement qui s'est terminé et que on croyait que la CENI devait revenir pour régler la situation du peuple togolais. Mais on considère que le chien aboie, la caravane passe. est-ce que c'est le norme, ça? Parce que quand on parle d'une élection transparente, le recensement, c'est le début des élections. Mais je voudrais toujours dire à M. Firmin qui dit que le RPT Uni est un grand parti, il gagne les élections. Mais il faut qu'il règle le problème du contentieux. Pour qu'il n'y ait pas de contentieux, il faut que les élections soient transparentes. La population veut s'enrouler. Et vous avez dit qu'il y a des fonctionnements, il y a des anomalies, que pour la première fois dans l'histoire du Togo en politique, le RPT Uni a dit qu'il y a erreur. Du jamais vu. Mais ils ne voulaient pas revenir là-dessus, d'amener la population vers la violence. Parce que quand la population va demander, article 44 du code électoral, je veux ma carte d'électeur, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Bon, lorsque vous parlez toujours, on parle toujours que c'est l'opposition, dans l'opposition, il y a des crises. Mais je pense que la crise est toujours là. Le RPT unir, ce n'est pas un parti politique, c'est une culte. Il faut le comprendre comme ça, que nous n'avons pas besoin de savoir s'il y a la crise dans le RPT ou pas. Nous voulons une élection transparente, que le pays soit en paix. Merci.
Merci Pélé. Vando, 21 33 74 91 36 63 75. Allô. Vando, 21 33 74. Allô.
Oui, allô.
Bonjour.
Bonjour, c'est Arès.
S'il vous plaît, c'est qui?
C'est Arès.
Res.
Arès. Arès.
Ok, allez-y.
Oui, salut.
Allô?
Oui, je salue le plateau.
Oui, voilà, le plateau vous répond.
Par rapport à ce qui se passe à Unir, moi je remercie M. Chemin, je n'ai pas été toujours d'accord avec lui. Mais cette fois-ci, je suis d'accord avec lui. Et il faut que les gens arrêtent de jubiler. Il n'y a aucun problème là-bas. Parce que nous avons toujours vu des exemples dans ce pays comme Firmin l'a cité. Et moi, ce qui m'étonne sur nos réseaux, sur nos médias, c'est des gens sérieux, nos leaders politiques qui se réjouissent. Franchement, il faut que les gens redescendent sur terre. Mais par rapport à tout ce que vous avez dit sur le recensement et autres, je ne sais pas pourquoi au Togo, nous avons de tels problèmes à faire des choses bien. On est dans ce processus électoral depuis des années. Mais toujours, les problèmes sont de plus en plus graves. On ne comprend plus. Pourquoi ça? Pourquoi au moins une seule fois, on ne peut pas faire les choses bien? On va dire que, bon, on avait des estimations. À cause de ça, on laisse les gens qui ne se sont pas inscrits. Finalement, quel processus électoral on veut faire ça? Hein, c'est quand même grave. Mais par rapport à votre confrère, c'est qu'il a été, le monsieur, il n'est plus sur place. Sa famille représente quoi? Qu'est-ce qu'on a dans nos pays comme ça? Si cette information est vraie, bon. Mais franchement, qu'est-ce que sa famille représente comme menace pour le pouvoir en place? Il faut que les gens fassent en sorte qu'on puisse vivre paisiblement, quoi. Merci.
Merci beaucoup, cher ami. Vando, 21-33-114, Vando, 21-33-114, 91-36-63-75. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et s'il vous plaît, c'est qui?
C'est Niamavo.
Niamavo, allez-y.
Oui, salut le plateau. S'il vous plaît, j'entends dire que Unir, c'est un système. C'est vrai, parce que y compris l'armée, tout ça là. Mais il ne faut pas qu'on estime qu'il n'y a pas de guerre à Unir. Il y en a chaque année, chaque fois. Les gens demandent, c'est quand la date des élections? Moi, je me dis dans ma chambre que Unir n'a pas encore fini sa guerre. Le choix d'un député dans une circonscription est un problème. Même entre-temps, j'étais au village, une vieille disait à un député que Somdo Ebechak ou Winne Sessim Bosso, c'est Essendria.
Ça veut dire que
donc, Enyopana Echar, oui, ça veut dire que le village attend seulement que Unir choisissent quelqu'un. Et on dit que c'est le candidat de l'Unir, ça. Donc, cette guerre-là, elle a depuis ce que Nyakade a fait sortir, c'est le dessus de l'iceberg. Donc, c'est ça, mon intervention. On dit souvent que c'est dans l'opposition que il y a la guerre, même dans nos familles-là. Il y a la guerre. On doit être consentant que c'est pas que les opposants sont faibles ou bien quoi, c'est unir qui est plus fort. Non. Seulement, on demande à tous les partis politiques de tout faire. Parce que j'entends dire que, comment l'appelle-t-on, mon peuple souffre pour de connaissances. Mais au Togo, les Togolais souffrent parce qu'il y a trop de connaisseurs. Même dans les clans de l'opposition, dans les unir aussi. C'est ça. Parce que tout le monde se dit, moi, je connais, c'est ça qui amène ça. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Nous allons recevoir le dernier auditeur, 22 21 33 114. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, et vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, le nom, c'est?
C'est Patrick.
Patrick, allez-y.
D'accord. J'aimerais intervenir concernant les crises au sein des formations politiques-là. Bon, c'est pour vous dire que... dans les partis politiques, il y a toujours des problèmes. C'est tout comme dans nos sociétés civiles. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que tout le monde saura que vraiment ça ne va pas dans votre formation politique. Unir, vous venez de le dire, dans Unir, il y a des problèmes. Dans les autres partis politiques, il y a des problèmes. Mais je vous retourne de consulter une vidéo qui avait circulé sur le toit de Monseigneur Baudreau. Mes amis, quoi qu'on dise, reconnaissez que le lièvre va plus vite que vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Monseigneur Podro a pris soin de sillonner nos formations politiques de l'opposition. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que chacun suive son regard. Et si vous avez la vidéo, bien, consultez la vidéo là et vous verrez tout. Toute la vérité est sortie. Ce monsieur a tout dit concernant nos formations politiques. Vraiment, c'est vraiment dommage. Si nos formations politiques se comportent comme ça, c'est-à-dire en passant seulement à leur propre poche, alors qu'ils prétendent gouverner ce pays, en tout cas, en avant le Togo. Bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick. Vous êtes le dernier auditeur alors pour le compte de cette émission de ce vendredi. Alors, nous revenons en studio et sur le plateau ici. Francisco, c'est vrai, nous avons écouté aussi les uns les autres. Je veux bien parler de nos auditeurs. Alors, quelle réaction vous avez par rapport à leurs commentaires sur les sujets?
Non, vous savez, les auditeurs sont très réalistes. Sont réalistes. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière les mots. L'autre l'a dit, c'est que il y a des détails qu'on ne peut pas, donner, sinon que, en fait, c'est la crise profonde au sein du grand parti. Nous avons suivi il y a quelques semaines et comment les délégations de l'intérieur sont allées, c'est-à-dire au siège de Unir pour échanger. Je crois que je l'avais dit ici que on n'a plus d'opposition. La vraie opposition, c'est au sein de Unir. Donc, mais comment les fractions, c'est une section, je prends Bassa, Atapame, Balimé, Kara, comment ils sont divisés. Ils ont été reçus. Et chaque délégation, chaque cellule est venue à Lomé rencontrer le bureau central. Mais ils sont partis pour la plupart en queue de poisson. D'accord. Mais c'est que, comme on le dit, les gens ont peur. Parce qu'il y a le bâton. Parce qu'il y a le bâton. Et les gens ont besoin de leur sécurité, ils ont besoin de manger. Donc, voilà, c'est ça qui fait qu'ils sont encore dans les rangs. Mais ça ne clore pas un pays. Ça ne peut que nous abrutir tous.
Olivier?
Oui, non, moi je tiens à redire encore que nous tous, nous voulons que la CENI puisse reprendre le processus dans la zone première, surtout où il y a eu des difficultés. Mais j'ai dit que ça ne doit pas être qu'une requête. Mais on ne peut pas peut-être dire que c'est un droit où on va l'imposer. La CENI, en nommant les membres de la CENI, on ne les a pas mis là-bas en leur disant attendez, on vous revient. Ils ont un cahier de charge. D'accord. Peut-être même qu'ils ont un chronogramme. Puisque quelqu'un s'est énervé parce qu'on a parlé de chronogramme.
Tout à fait.
Le chronogramme est là. Si ce n'est pas encore rendu public, ça sera rendu public. Mais on ne peut pas dire qu'on organise tout cela dans l'air. D'accord.
C'est pour un objectif.
C'est pour un objectif et c'est inscrit dans un délai. OK. Maintenant, si la CNIL n'a pas encore rendu public ou le gouvernement n'a pas encore rendu public le calendrier, et c'est pour des raisons. Mais je crois qu'à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, il a un cahier de charges, une mission et peut-être aussi et obligatoirement même un délai pour pouvoir faire cette mission. C'est ce que je dis, peut-être l'auditeur ne m'a pas bien compris, mais en disant ça, j'ai dit que l'idéal et ce que nous voulons, c'est qu'on puisse reprendre, parce que moi-même je suis concerné par cette situation. Seulement il ne faut pas aller à l'affrontement ou à la confrontation, parce que la CENI est souveraine dans l'organisation des élections, donc elle peut accepter comme elle ne peut ne pas accepter. Mais ne présentons pas la chose comme nous demandons à ce que la CENI n'organise pas le recensement ou un rattrapage, non. Puisque qui s'arrange que la CENI n'organise pas ce rattrapage? La personne. Ça nous arrange tous que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être recensés puissent avoir cette chance-là.
Moi, j'ai juste deux petites choses. La première chose, j'ai jamais dit qu'il n'y a jamais eu de crise à unir. J'ai jamais dit ça ici. J'ai dit ce qui est en train de se passer avec l'histoire Niakaden, ce n'est pas une crise. C'est comme nous sommes en train de tomber dans une certaine manipulation. Je dis pas que c'est une manipulation. Hein. C'est comme tout le monde court vers ça. C'est comme on s'y attendait. Moi, je dis ce n'est pas une crise. Les vraies crises, on les a connues au sein du système. Le temps Guillaume Kodjo, c'était des crises. Le temps Martin Esmé, c'était des crises. Le temps le décès du général Yassine Badema, c'était des crises. C'est des crises. Mais ce qui se passe là, ce n'est pas une crise. Mais s'il n'y avait pas de crise, le système ne serait toujours pas maintenu là, là où il est. C'est parce qu'il y a eu des crises qui l'ont renforcé plutôt. La preuve, la crise de 2017 même, qui était une crise qui a dérangé un peu le pays, a plutôt aidé le système à se renforcer davantage. Donc la deuxième chose, et puis ici, je n'ai pas dit que le RPT uni gagne des élections. Nous parlions de la CENI et j'ai dit que et je disais à Olivier que on a loué, on a adulé la CENI à un moment donné, mais au finish c'est toujours les mêmes contestations. On organise des élections, il y a un parti qui dit j'ai gagné et l'autre conteste. C'est toujours la même chose qu'on dit. J'ai jamais dit que le parti RPT uni ou le système RPT uni gagne les élections. J'ai pas dit ça ici. Si le système qui est en place est là, c'est parce que les résultats ont été proclamés et ont rendu victorieux le système qui est en place, c'est tout. Mais j'ai pas affirmé. Merci
beaucoup. Et Germain, réaction?
Non, je n'ai pas de réaction particulière. Tout ce que je demande aux acteurs qui sont donc sur le terrain, c'est de se focaliser sur les prochaines échéances, parce que tout ce qu'ils font dans l'année ou sur des mois, c'est en vue des élections, en vue de la conquête du pouvoir et de son exercice. Donc ça passe par les urnes et ce parti qu'ils aillent occuper le terrain, qu'ils bousculent un peu unir leur endroit, parce que on a comme le sentiment qu'en face il n'y a pas une grande force. Je pense que c'est ce que ce cadre d'unir voulait dire, mais en même temps il est allé un peu trop fort. Hein. Maintenant, bon, voilà, ça c'est quand même une réalité. Il faut aussi que ce parti ait les moyens. Il faut, en même temps que nous réclamons l'aide de l'État à la presse, qu'on augmente, il faut qu'on augmente aussi l'appui aux partis politiques pour qu'ils puissent faire leurs activités. Maintenant, au passage, si certains militants comprennent qu'ils doivent cotiser et avoir un droit de décision, parce qu'on a vu un peu la succession difficile à la tête de certains partis dont les dépenses étaient totalement gérées par les fondateurs, donc il faut aujourd'hui que les militants disent qu'il n'y a plus de fondateurs providentiels, il faut pouvoir aider le parti à fonctionner.
Merci Germain. Et Gosson, rapidement.
C'est juste pour dire que c'est une doléance.
Oui.
Si le président de la CENI peut prendre en compte, je serais très heureux. Si mes calculs, mes prédictions sont bonnes, les élections, le couplage pourrait se dérouler en fin d'année. Mais alors, d'ici la fin d'année, nous avons encore 6 mois. En 6 mois, plein de Togolais auront l'âge de la majorité pour voter. Et donc, que la CENI, à défaut de revenir dans la zone 1, prenne sur elle de revoir le fichier en
temps pour permettre à ceux qui auront la majorité et ceux qui ont été laissés de côté de prendre le train en marche un ou deux mois avant l'organisation.
Merci beaucoup, Godson. Franco, carton de fin d'émission, rapidement.
Oui, bon, mon carton, c'est pas un carton, c'est une précision. C'est que pour tous ceux qui.
S'il vous plaît, voilà. Carton, puisque le temps est déjà.
Je bloque ça. Pour tous ceux qui passent des communications sur les réseaux sociaux, par exemple, un accident, une perte de vélo, une perte de moto ou autre, hein, que les gens précisent les dates à l'intérieur. Des messages, dates et lieux.
Merci
ça
beaucoup.
Ça permet de se.
Merci. Olivier, carton. D'accord. Et Fermé, carton.
Je donne un carton. Qui a perdu notre confrère, cher Jacob Aroma.
Jacob Aroma.
Alors que Dieu leur appelle toujours le cœur.
Jamais carton d'émission.
Carton vers tous les acteurs culturels et au ministre de la Culture qui fait énormément. Depuis qu'il
est là. Bignol Amadoku,
voilà, il docteur. Y a la journée donc, du cinéma du Togo qui va s'y branler.
Merci beaucoup, Germain. Gosson, carton.
Carton vert, futur, à tous ces citoyens qui, quand ils retourneront les futurs députés en face, vont leur demander des comptes sur comment ils ont eu à conduire.
Merci beaucoup, Godson. Franco, merci à toi. Merci, Olivier Adja. Merci, Firmin. Merci, Germain Pouli. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Toumanda TV, à la mise en onde, Jérôme Dakoucha à la mise en ligne. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Yeah! Magic System! Hommage à Alpha Blondie! Sweet, sweet! Fantasia Diallo! Sweet, sweet! Sur un arc-en-ciel, elle touchait tous les rayons du soleil. Elle brillait comme un bon morceau de miel. Elle piquait comme le poivre et comme le sel. Tu as